Je ne suis pas quelqu'un qui aime se plaindre, qui cherche à apitoyer ou à susciter la commisération. Je ne le serai jamais. Je sais la chance qui est la mienne. Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille et ne fut pas celle de tout à chacun. Ma femme, que j'ai rencontrée par miracle après un divorce douloureux, est une grâce. Mes enfants font chaque jour ma fierté. Mon énergie est inépuisable. Et sans doute, je ne resterai pas 14 années au cachot comme le héros de Dumas, Edmond Dantès. Je n'ai même pas le besoin d'écrire sur les murs de ma cellule, comme il était écrit dans la sienne, « Mon Dieu, conservez-moi la mémoire. » La mémoire, je l'ai, mais je n'en ferai pas une arme de destruction massive. Si j'avais une supplique à présenter, ce serait plutôt « Mon Dieu, conservez-moi la force. » La force de résister qu'il m'a fallu et qu'il me faudra encore trouver au plus profond de moi. J'ai conscience qu'elle peut parfois sembler inhumaine. J'ai compris en prison qu'elle aussi était une grâce. Une grâce qui n'était pas donnée une fois pour toutes. Elle est précaire et peut s'évaporer à tout instant. Avec elle, j'ai appris à être modeste. Je prie pour qu'elle demeure en moi, car j'en ai vraiment besoin. Elle ne m'a jamais fait défaut. Puisse-t-elle ne pas me manquer pour l'avenir. Je terminais presque ma deuxième semaine en prison. Un délai tout à la fois si court et si long. De l'extérieur, 2 semaines, ce n'était sans doute rien ou si peu. De l'intérieur, c'était interminable. C'est comme si l'on m'avait plongé dans une autre vie que la mienne. Comme si mon cœur avait cessé de battre. Comme si j'étais en apnée de mon propre destin. La vie extérieure était absente, seul existait le temps entre ces 4 murs où rien ne se passait, où je ne pouvais compter que sur mon imaginaire. Je vivais comme dans un huis clos. Cela m'a même donné l'idée de relire la pièce de Sartre du même nom pour voir si j'y retrouverais les émotions que j'étais en train de vivre. La veille au soir, j'avais ressenti une grande et soudaine fatigue. J'étais vidé de toute énergie, incapable de penser clairement, pas davantage d'écarter les idées sombres. En désespoir de cause, je m'étais couché très tôt, vers 22h. Je ne pouvais pas croire que c'était l'heure de course dans la salle de sport qui m'avait à ce point fatigué. Pour me consoler, je me disais que je me réveillerais sans doute très tôt le lendemain, ce qui me donnerait l'occasion d'écrire et de lire davantage. Or, à ma grande surprise, je me suis levé tard, vers 7h du matin. Le jour était déjà presque là. Je me suis rendu compte que la prison provoquait une fatigue profonde, nerveuse comme physique. Je ne l'avais pas réalisé au début. Je vivais sur les nerfs. J'étais concentré à l'extrême pour tenter de comprendre les règles de vie de mon nouvel environnement. Je n'étais pas à l'écoute de moi-même, mais des autres, dans cet univers que je percevais comme tellement hostile et différent de tout ce que j'avais pu connaître. Je devais en convenir. La prison provoquait en moi une lassitude, presque une usure physique. Je ne quittais pas ma cellule. Mon activité était réduite, voire inexistante, comparée à ce qu'elle avait été au cours des 50 précédentes années de ma vie professionnelle. Je ressentais ce poids de l'usure. J'avais dormi presque 9 heures d'affilée, ce qui ne m'arrivait jamais à l'extérieur. Mon sommeil n'était pas si mauvais, encore moins agité, mais à l'inverse, il n'était pas réparateur. Était-ce le fruit de la solitude qui commençait à me peser? Était-ce l'enfermement qui me faisait perdre mes repères? Je ne saurais l'expliquer, mais la réalité était bien celle-ci. La prison me fatiguait physiquement et pas seulement moralement. Heureusement qu'il y avait la possibilité de cette heure quotidienne d'exercice physique. Elle me permettait de m'échapper, de me régénérer, de ressentir des émotions physiques réelles, comme la fatigue, après l'effort. Je n'ai jamais dérogé à ce rendez-vous de la mi-journée. Bien m'en a pris. Je ne confiais pas ces tourments à Carla. Je voulais à tout prix la protéger. C'était déjà assez dur pour elle. Il n'y avait nul besoin d'en rajouter. Il y avait malgré tout quelques bonnes nouvelles. Parmi celles-ci, le constat troublant est que je n'ai jamais eu moins de migraines que lors de mon passage en prison. Je suis un migraineux de naissance, et sans doute d'identité, puisque ma mère l'était et que l'un de mes fils l'est aussi. Ce n'est pas une affliction rare, puisque la France compte près de 10 millions de migraineux. La migraine n'a rien à voir avec les maux de tête. Elle est beaucoup plus handicapante. Ceux qui me liront et qui souffrent du même mal savent combien il est douloureux. Quand la crise démarre, elle est inarrêtable et on se trouve incapable d'avoir la moindre activité. Ce n'est pas une maladie grave, mais elle peut déstabiliser la vie quotidienne. Fort heureusement, il existe des médicaments qui permettent, s'ils sont pris à temps, d'éviter les conséquences de ce mal incurable dont on ne peut que limiter les effets. En rentrant à la santé, j'avais pris la précaution d'emporter ce traitement qui m'est indispensable. L'administration pénitentiaire me l'avait autorisé et les médecins de la prison me fournissaient même en surnombre les pilules dont j'avais besoin. Ce fut une grande surprise de constater que ces crises, qui pouvaient à l'extérieur me prendre une ou deux fois par semaine, avaient pratiquement disparu. J'en ignore la raison. J'en suis réduit aux conjectures. Peut-être qu'à la santé, je ne me relâchais jamais et que cette tension nerveuse évitait le déclenchement de la migraine. Je ne suis pas médecin et n'ai aucune compétence en la matière. Je ne peux que constater. Je prenais ce phénomène étrange comme une bénédiction qui ne me conduisait pas malgré tout à souhaiter demeurer plus longuement dans cet endroit. Je ne connais pas le masochisme. Cela faisait 12 jours que je n'avais pas vu Julia. Elle en souffrait beaucoup, moi aussi. Pour la première fois de ces 14 années de sa jeune existence, j'avais disparu de son quotidien. Elle trouvait la maison vide. Elle s'inquiétait pour sa mère qu'elle voyait triste et préoccupée. Elle réclamait avec insistance de venir me voir à la prison. Au début, nous étions avec Carla vraiment réservés. Était-ce un endroit pour elle? Ne prenions-nous pas le risque de la choquer durablement en la faisant venir? Pourrait-elle supporter le choc de voir son père enfermé? Nous nous posions toutes ces questions sans cesse. Notre volonté de parents était d'essayer de faire au mieux, sachant que sans doute il n'y avait pas de vérité absolue ni de solution sans inconvénient. Mais finalement, la décision fut facile à prendre. En tout cas, bien davantage que nous ne l'avions imaginé. C'est la volonté inébranlable de Julia qui nous a fait surmonter nos craintes initiales. Elle le voulait. Elle ne comprenait pas pourquoi nous hésitions. C'est donc elle qui non seulement a choisi, mais nous a imposé son choix. À juste raison. J'étais fier de sa force et de sa nouvelle maturité. Je les attendais donc toutes les deux le samedi suivant avec d'autant plus d'impatience que je n'avais vu personne de la journée et qu'elles sont avec mes fils le cœur de ma vie. J'arrivais accompagné de mes 6 gardes. Je franchissais la dernière grille que l'on venait de m'ouvrir quand je les aperçus au bout du couloir. Jean était là aussi. Julia se jeta littéralement dans mes bras. Elle pleurait, ou plutôt avait les yeux humides d'émotion. Je n'étais pas dans un état différent. Nous étions réunis pour 50 minutes. C'était peu, mais au moins nous étions physiquement en présence les uns des autres. Je la voyais changer, plus mûre, plus grave, moins adolescente, plus adulte. J'ai pensé que c'était une nouvelle grâce qui était réservée à notre famille. L'opportunité pour chacun de nous de devenir meilleur, plus profond, plus fort. Et pour moi, quel privilège de me sentir aimé à ce point. Julia était intarissable. Elle voulait tout savoir de ma vie quotidienne. Ce que je mangeais, comment je dormais, si les gens étaient gentils avec moi. Elle me fit promettre de lui téléphoner tous les jours. « Tu me manques tellement, j'ai besoin de t'entendre », me glissa-t-elle entre deux questions. Quand la directrice adjointe est venue frapper à la porte pour nous signifier que le parloir était fini, nous fûmes surpris. Le temps était déjà écoulé. Il fallait se séparer. Heureusement, Jean était avec nous. Il était attentif à sa sœur comme un père de substitution. J'étais ému de les voir si proches et si confiants. Julia salua tous les surveillants qui m'entouraient. Au moment de nous quitter, elle eut un mot gentil pour chacun, les remerciant de bien s'occuper de son père. Carla était aussi proche de sa fille que de mon fils, qui n'était pas le sien. Et pourtant, il n'y avait aucune différence. J'ai pensé à tout ce que représentait notre famille pour ma femme, mais l'inverse était tout aussi vrai. Elle était le ciment, la fédératrice, le phare pour chacun d'entre nous. J'ai senti, en cette fin d'après-midi, tout ce que je lui devais. Ce moment, partagé ensemble, m'avait beaucoup rasséréné. Je n'étais pas triste en remontant dans ma cellule. Cela avait été une parenthèse heureuse. J'apprenais ainsi à profiter de chaque instant. Dans le passé, et surtout plus jeune, j'avais brûlé ma vie à toujours chercher l'exceptionnel. J'ai si souvent recherché l'adrénaline, les émotions fortes, les événements extraordinaires, les voyages lointains, les endroits les plus spectaculaires. Et ce soir, j'étais comblé par une rencontre de 50 minutes dans une salle qui pouvait à peine contenir les 4 chaises que nous utilisions au rez-de-chaussée sinistre de la prison de la santé, avec ces 3 êtres que je chérissais tant. On m'a tout au long de ma carrière interrogé pour connaître les lieux que j'aimais le plus à travers le monde. J'ai souvent hésité, tant le choix était large. Aujourd'hui, je n'hésiterai plus. J'ai trouvé la seule bonne réponse. Peu importe le lieu, seuls comptent les présents, j'irai partout avec eux et pour eux, et c'est là où je serai le plus heureux. La veille, en fin de matinée, j'avais reçu l'information par Christophe Ingrin que la date de l'audience qui examinerait ma demande de remise en liberté après cette invraisemblable incarcération avait été enfin arrêtée. Il m'expliquait que le délai de 3 semaines entre mon entrée à la santé et la date qui venait d'être fixée était plutôt une bonne nouvelle. Ils auraient pu me faire attendre jusqu'à 2 mois. C'était le délai maximum pour répondre à une telle demande. Un véritable cauchemar. Je ne pouvais cependant m'empêcher de trouver le temps qui m'était imposé comme trop long. Naturellement, je n'en disais mot pour ne pas contrarier ceux qui devaient juger la légalité et la nécessité de cette incarcération. Mais quand même, 3 semaines pour commencer à réfléchir si mon emprisonnement était nécessaire, alors que j'avais fait appel et donc que ma condamnation n'était pas définitive, que depuis 13 années j'avais répondu aux innombrables convocations de la justice, que les faits en cause remontaient à 20 ans, ce qui excluait tout risque de concertation ou de pression, que mes garanties de représentation sur le territoire national étaient aussi nombreuses qu'évidentes, pourquoi m'imposait-on ce délai? S'agissait-il de ne pas désavouer trop rapidement le tribunal correctionnel de Paris? Craignait-on de donner le sentiment de me traiter mieux qu'un détenu normal? Ce qui aurait été un comble, tant il était évident que je n'avais bénéficié d'aucun privilège, mais au contraire, fait l'objet d'un harcèlement judiciaire sans précédent. J'en étais là de ces conjectures, inutile de se lamenter, nous avions une date, ce qui n'était déjà pas si mal, il restait une dizaine de journées interminables à attendre, j'apprenais chaque jour à devenir patient, il était temps. Après tout, j'avais désormais un horizon qui ne m'offrait aucune garantie, mais qui, pour le moins, était un point de repère, et j'en avais bien besoin. Une des choses qui me manquait le plus, outre la présence de ma famille, était l'impossibilité de voir l'extérieur. J'étais confiné entre ces quatre murs et je ne pouvais rien apercevoir de ce qui se passait aux alentours. Je ne voyais que cet immense panneau de plastique qui me protégeait du regard des autres, mais me coupait dans le même temps de la vie des autres. C'était la première fois de ma vie que je vivais cette expérience étrange de ne plus pouvoir regarder la rue, le ciel, les voitures qui passaient, le temps qui changeait, les oiseaux qui volaient, les arbres qui perdaient leurs feuilles à l'automne. Je devais chaque jour demander à mes avocats ou à Carla quel temps il faisait. Pleuvait-il? Le soleil brillait-il? Je voyais bien que la lumière changeait avec la luminosité dans ma cellule. Je pouvais mesurer le froid qui régnait en ouvrant ma fenêtre grillagée pour aérer mon si petit espace vital, mais je ne sentais ni ne voyais rien. Alors que j'ai toujours aimé humer l'air du moment, adoré me promener pour sentir l'atmosphère du pays, me nourrir du regard des autres, bavarder au hasard des rencontres, tout ceci m'était désormais interdit. Je m'apercevais chaque jour combien ce qui m'avait paru évident, naturel, normal, me manquait cruellement. Je ne disposais plus de mes capteurs naturels. Ils ne pouvaient plus fonctionner. J'avais perdu mes radars instinctifs. Quand Carla me demandait mon avis au sujet d'une question relative aux enfants ou au fonctionnement de la maison, je lui répondais « Ce que tu décideras, sera le bon choix. » Ce n'était pas une formule de politesse ou une façon d'évacuer le sujet. C'était vraiment mon ressenti. Être coupé à ce point de l'extérieur me donnait le sentiment d'être entre parenthèses, de ne plus appartenir au monde des vivants. Je n'exagère pas. J'étais bien sûr en vie. Je voyais ma famille quasiment un jour sur deux. J'avais des nouvelles régulièrement sur les événements que vivait la France. Mais la conjonction de l'enfermement, de l'absence de portable, de l'impossibilité d'être appelé à tout moment et la perte de toute vision de l'extérieur constituait un choc qui impliquait un temps d'adaptation que, visiblement, j'avais encore à accomplir. J'aurais donné beaucoup pour pouvoir juste regarder par la fenêtre, rester posé là, à un balcon quelconque, prendre du plaisir à voir passer les voitures, imaginer la vie des passants qui marchaient dans la rue, toutes ces attitudes si banales traduisant le manque dans lequel je me trouvais. Il est vrai qu'il s'agissait de mon deuxième dimanche à la santé, pas de visite, pas de sortie, la journée promettait d'être longue, pour ne pas dire interminable. C'est surtout les couleurs qui me manquaient. En entrant à la santé, j'avais eu le sentiment d'un monde gris. Cela ne s'était pas arrangé avec le temps qui avait passé. Ma cellule était entièrement de cette couleur. Le cadre des fenêtres, les grilles, le sol, l'armature du lit, la porte. Rien ne venait rehausser le regard, la perspective, le cadre. Je suis un amoureux de la peinture. J'apprécie le beau. Je parcours les expositions avec enthousiasme, c'est peu dire que je me trouvais frustré. La prison n'est, entre autres choses, pas faite pour les esthètes. J'étais heureux de ce second rendez-vous avec le prêtre de la santé. Deuxième dimanche signifiait deuxième rencontre. Comme prévu, il se présenta au parloir du quartier d'isolement un peu avant 10h30. Il m'indiqua n'être jamais venu dans cette partie de la santé avant nos rencontres. Je retrouvais la même personne, bonne et disponible. Il venait de célébrer la messe. La conversation s'engagea avec la même facilité. Je l'ai trouvé plus à l'aise, moins contraint, plus spontané. Il me confia trouver étrange ma présence en prison. Je ne le lui faisais pas dire. Il avait été très choqué par la visite impromptue des deux élus de la France insoumise. « Pourquoi tant d'impudeur et de méchanceté ? » s'interrogea-t-il. « Comme c'est étrange, cette haine que vous suscitez. » Il en était sincèrement blessé et voulait me faire partager l'évangile qu'il avait lu la veille lors de sa célébration. Il était tiré de saint Matthieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. Réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. Je n'en étais pas à m'en réjouir. Mais l'évangile de la Toussaint était parfaitement adapté à ma nouvelle situation. J'étais reconnaissant à ce prêtre de m'en donner lecture. Cela me fit du bien en m'obligeant à réfléchir aux conséquences de l'injustice que j'étais en train de vivre et à tous les bienfaits que je pourrais en tirer. La conversation continuait librement lorsqu'il me relata l'histoire qui lui était arrivée alors que la France se trouvait à l'arrêt durant la première épidémie de la Covid. Il habitait déjà dans le foyer pour personnes sans abri. Il avait célébré la messe pascale avec la dizaine de résidents présents. L'ambiance était heureuse et sereine. Il quitta la maison pour effectuer la promenade journalière d'une heure qui était autorisée à chacun à cette époque. Après une demi-heure de marche, solitaire, il passa devant une personne seule, qui tremblait légèrement, assis sur un banc. Il la dépassa, puis, pris d'un soudain remords, fit demi-tour pour s'enquérir de la situation de ce pauvre homme. Alors qu'il lui demandait s'il avait faim, ce qu'il pouvait faire pour lui, l'homme lui répondit, en le regardant droit dans les yeux, « Christ est ressuscité ». Le prêtre était d'autant plus bouleversé par cette réponse étonnante qu'il n'avait pas revêtu son habit de clergyman. Il était habillé en civil. Son interlocuteur ne pouvait connaître son statut de religieux. Le prêtre était convaincu qu'il s'agissait d'un signe de la Providence et de fait, c'était troublant. J'ai aimé cette histoire et surtout la manière dont elle m'était contée. Avec beaucoup de tact, au moment de me quitter, mon visiteur me demanda « Pensez-vous être encore ici dimanche prochain ? C'est tellement étrange de vous voir en prison. C'est incompréhensible de vous trouver ici. » Je lui répondis en riant « Combien je partage votre avis, mais je serai certainement là dimanche prochain. » En effet, l'audience de mise en liberté n'aurait lieu que le lundi qui suivait. Nous prîmes donc rendez-vous pour le dimanche suivant. Cela devenait un rituel dans lequel je trouvais du plaisir, grâce à la profondeur de mon interlocuteur. Je me promis même de poursuivre nos échanges une fois que j'aurais quitté la prison. Je souhaitais présenter cet homme de paix, de simplicité et de bonté à ma famille. C'était inattendu, mais cela me montrait que chaque rencontre était une opportunité de s'enrichir et que dans chaque endroit, fût-il le plus désespéré, il y avait des sources de lumière pour peu que l'on ait la disponibilité de les accueillir. C'était une belle leçon. Sans doute m'était-il arrivé tant de fois dans le passé de ne pas accorder assez d'attention à des interlocuteurs dont j'avais sans doute sous-estimé l'intérêt, l'originalité, la profondeur.